Bonjour, vous êtes à l'écoute de l'émission mensuelle de l'association Noa Osez le Dire. Je vous rappelle que cette association est une ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Notre permanence est ouverte du lundi au jeudi de 10h à 16h sans interruption, que vous pouvez également consulter notre site internet noaosezledire.fr. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Francine Cosman, qui est directrice des services éducatifs en milieu ouvert à Lozé. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je voudrais dans un premier temps, bien que vous rappeliez à nos auditrices et à nos auditeurs, ce qu'est Lozé.
Voilà, donc Lozé est une association médico-sociale qui a fêté son centenaire cette année, puisqu'elle a été créée en 1912 par des médecins juifs qui portaient secours dans les ghettos au niveau sanitaire. Et puis d'histoire en histoire, elle était amenée à cacher des enfants et en 1945 à devenir une association qui s'occupait d'enfance subventionnée par les pouvoirs publics en tant que protection de l'enfance. Donc aujourd'hui, Lozé, c'est une association qui a 650 salariés environ et qui s'ancre dans 5 secteurs, celui de la mémoire et de l'histoire, celui de la dépendance pour les personnes âgées, Alzheimer, etc., celui du handicap, de la santé avec son centre de santé et son centre Georges Lévy qui reçoit des enfants et des adolescents au niveau psychologique, et puis le secteur de l'enfance dont je fais partie. Donc celui-ci est aujourd'hui coordonne 5 maisons d'enfants, un service de placement familial, un service pour la petite enfance, la maison des sources, une maison des sources, un service de prévention, médiation, protection qui reçoit aussi des familles par rapport à des questions compliquées de rapports familiaux, et puis notre service de milieu ouvert que, si vous le voulez, je peux vous décrire maintenant.
Oui, j'allais vous poser la question pour savoir votre rôle.
Alors, notre service de milieu ouvert, en fait, ce sont 2 services. Un qui est financé par le ministère de la Justice, qui fait des investigations. Ce sont des mesures judiciaires d'investigation éducative. Ce sont des mesures où les familles ne peuvent pas faire appel à cette décision dans des cas de danger important. Et là, par année, nous recevons 245 enfants. Il est situé rue du Faubourg du Temple. Et puis actuellement, 3 services qui font de l'aide éducative en milieu ouvert et de l'aide éducative à domicile. Ce sont des mesures pour l'AMO qui sont ordonnées par les juges pour enfants dans le cas de danger important des enfants dans leur famille. Et l'AED, c'est un peu compliqué, on pourrait revenir. L'aide éducative à domicile est une mesure que la famille contractualise avec l'aide sociale à l'enfance. Là aussi, dans un cas de difficultés importantes au niveau éducatif, mais où la famille adhère, elle peut signer un contrat avec l'aide sociale à l'enfance. Ces mesures nous sont adressées dans 3 centres, un qui est rue du Faubourg du Temple, un qui est rue du Télégraphe, dans le 20e, et un qui est dans le 19e, rue de Flandre, passage de Flandre. Donc là, nous suivons 425 enfants par an. Et d'autre part, l'association nous a mis à notre disposition un poste d'éducatrice pour recevoir des demandes directes des familles qui sont en difficulté, qui ont besoin de conseils. Donc nous pouvons recevoir en direct des familles ou leur les renseigner par téléphone ou les recevoir et leur expliquer ce qu'est le dispositif de protection de l'enfance et les accompagner, si elles le souhaitent, vers une demande d'aide auprès de l'aide sociale à l'enfance.
Quand vous dites, pour bien préciser, quand vous dites aide éducative à domicile, ça consiste en quoi, aide éducative ?
Alors, le terme domicile est un petit peu compliqué. Donc, l'aide éducative à domicile, c'est quelque chose qui est national. Tous les départements de l'aide sociale à l'enfance ont mis ça en place. C'est, pour vous donner une idée, il y a 50 personnels dans mon service. Donc, en grande partie des éducateurs ou éducatrices ou assistantes sociales qui travaillent avec des psychologues. Donc, un éducateur reçoit entre 22 et 25 enfants en même temps. Donc, ça peut être le double par an, tout dépend combien de temps les mesures... Donc, vous pouvez le comprendre qu'un temps restreint pour réellement s'occuper des enfants, il ne les voit pas tous les jours, mais il rencontre la famille et l'enfant. Donc, Le but est d'essayer de faire cesser le danger, donc de donner des conseils aux familles, de recevoir l'enfant seul pour l'aider à se construire, à trouver des moyens de s'autonomiser. Ils travaillent avec des psychologues qui peuvent aussi recevoir la famille et l'enfant et tenter de résoudre les conflits qui peuvent se présenter ou dans un cas de divorce, de difficultés familiales où on essaye de remettre l'enfant au centre de l'éducation et que les parents voient les manques, les difficultés de leur enfant. Donc on travaille aussi en lien avec nos partenaires, genre l'école, les psychologues qui suivent l'enfant. On essaye de proposer aussi des activités de loisirs, des activités ludiques ou avec des colonies de vacances, des centres de loisirs parce que les parents n'ont pas toujours l'idée ou l'envie ou les moyens de le faire. Et nous-mêmes proposons des activités à des moments où les enfants sont libres pour les connaître mieux, pour les voir dans un autre contexte que le contexte individuel.
Alors, je crois qu'on a bien compris.
Oui, j'espère, parce que c'est un peu compliqué à comprendre.
Oui, non, mais je crois que c'était très clair. Le rôle des services éducatifs en milieu ouvert, ça me semble clair. Avant qu'on aborde votre rôle lorsque des enfants vous sont adressés pour des violences ou qui sont témoins de violences, peut-être avez-vous des statistiques à nous communiquer en ce qui concerne ce domaine-là?
Oui, ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, en France, c'est une cause très importante, hein, la cause des violences commises sur les femmes, et que on est en train de se rendre compte de façon officielle que les enfants eux-mêmes, même s'ils ne sont pas victimes réellement des violences du père ou du beau-père ou d'un adulte de la famille, sont de toute façon victimes psychologiquement de façon très importante des violences qu'ils voient. Dans le monde, il y a 275 millions d'enfants qui sont exposés à des violences, hein, à des agressions, etc. Et à des agressions familiales. En France, une femme sur 10 est victime de ces violences-là. Et tous les deux jours, une femme est tuée par son mari, son ex-compagnon. Voilà, ce sont des chiffres extrêmement importants.
J'imagine. Voilà, donc on est bien au courant de tout ça. Je vous propose, Madame Cosman, qu'on fasse une petite interruption musicale et nous reprendrons notre entretien tout de suite après.
Bye.
Pour l'émission mensuelle de l'association Noah, osez le dire, qui est une ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes qui subissent des violences conjugales. Notre permanence est ouverte du lundi au jeudi de 10h à 16h sans interruption et vous pouvez consulter notre site internet noahosezledire.fr. Vous y trouverez toute la législation, tous les articles de presse concernant les violences conjugales. Je reprends donc notre entretien avec Madame Francine Cosman, qui est directrice des services éducatifs en milieu ouvert à Lozé. Et la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est quel est votre rôle lorsque des enfants vous sont adressés, soit parce qu'ils subissent des violences directes, soit parce qu'ils subissent des violences indirectes?
Voilà, donc comme je vous le disais, les enfants pour leur presque totalité nous sont adressés ou par les juges pour enfants ou par les services du Conseil général de l'aide sociale à l'enfance. Donc ils ont été repérés par souvent l'éducation nationale ou par l'école privée dans laquelle ils sont. Et donc un signalement est arrivé à la cellule de recueil d'informations préoccupantes. On appelle plus ça signalement, on appelle ça une information préoccupante. À partir de là, le procureur de la République ou bien a demandé à un juge de se saisir ou bien cette mesure est arrivée à l'aide sociale à l'enfance. C'est dans ce cadre-là que nous intervenons, sauf nous y reviendrons pour une petite part que l'association a mis en place où nous pouvons recevoir en direct des familles. Donc quelle est notre action? Eh bien, nous nommons un éducateur qui travaille avec un psychologue et qui, comme je le disais tout à l'heure, va travailler sur un temps assez long pour que cet enfant reprenne confiance dans la vie, parce que ce qu'il faut mettre en avant, mais vous l'avez souvent exprimé certainement, c'est que ces enfants dont la maman est victime sont eux-mêmes victimes. Si 40% d'entre eux sont réellement victimes de violences, parce que ces familles-là souvent sont quand même très compliquées, dire qu'elles sont tout à fait harmonieuses, ce n'est pas possible. Donc souvent, ces enfants sont victimes eux-mêmes. Mais de toute façon, ils sont victimes psychologiquement. Ils sont dans un sentiment d'impuissance et de culpabilité qui est fort important. Et ils ont un sentiment de... Ils sont pris dans un conflit de loyauté entre leur père et leur mère. Donc ils ont tendance, suivant l'âge... Évidemment, un bébé n'aura pas les mêmes réactions qu'un adolescent, mais ils ont tendance à s'identifier comme ils le peuvent, c'est-à-dire à la victime ou à l'auteur, et on peut le comprendre, donc d'avoir des comportements qui ne sont pas du tout adaptés à ceux d'un enfant qui doivent évoluer vers une autonomie. Donc on va travailler beaucoup là-dessus, on va travailler aussi avec le papa et la maman, et on va essayer de faire en sorte que peut-être cet enfant ne soit plus le centre du conflit, hein, parce que ces enfants sont souvent très instrumentalisés entre le père et la mère. Donc on recevra la mère d'un côté, le père de l'autre, même au cas où ces familles ne sont pas forcément séparées, et on n'essaiera pas à tout prix de faire ce qu'on appelle souvent des thérapies familiales ou des choses comme ça, où l'enfant sera toujours dans ce conflit-là. On va essayer d'individualiser les prises en charge et de remettre aussi les parents dans un rôle protecteur vis-à-vis de leur enfant. Que la maman assume le fait qu'elle a pu être victime et les mots pour parler avec son enfant, surtout que l'enfant arrête de penser que c'est de sa faute. Parce que très très souvent, les enfants culpabilisent et pensent qu'ils sont au centre de ce conflit. On peut voir aussi que les mamans, dans ce cas-là, essayent de tout faire pour que la crise ne monte pas, pour donc elles vont tout accepter pour qu'il n'y ait pas de crise auprès de l'enfant, même s'ils réclament du chocolat et que ça fait monter la tension, elles donneront le chocolat. Et donc, ces enfants sont aussi élevés sans limite. Donc il va falloir aussi qu'on reconstruise avec la maman, avec le papa s'il peut guérir, parce que il y a des papas auteurs, bon, les statistiques disent qu'il y a 30% des personnes qui arrivent à changer, 30% qui sont un peu instables, puis 30% qui n'y arriveront pas. Mais donc on a des services spécialisés aussi, pas à l'OSE, hein, mais dans le secteur psy, qui travaillent aussi de façon approfondie avec les pères et aussi avec les mères, pour que chacun de son côté puisse se reconstruire, je vous le disais, dans leur parentalité.
C'est très instructif. Alors nous chez Noah Osez le Dire, on s'est aperçu que les femmes avaient tendance à réagir et à porter plainte, par exemple, dès que le père touchait aux enfants. Tant qu'il n'y avait que des violences vis-à-vis d'elles, elles acceptaient. Dès que le père touchait aux enfants, là, il y avait une véritable révolte. Et là, elles agissaient, elles allaient au commissariat, elles portaient plainte.
Donc c'est pour ça que ce message est important, parce qu'il faut que ces mamans comprennent que même lorsque les papas ne touchent pas à leurs enfants ou les beaux-papas, les enfants sont réellement victimes et qu'ils sont obligés de se construire sur un schéma qui n'est pas celui d'un enfant avec un développement normal, et qu'on rencontre des enfants qui ont des symptômes physiques, qu'ils peuvent être des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, des pipi au lit, des caca au lit, des choses comme ça. Parce que les enfants, surtout les petits, parlent avec leur corps. Les grands, les ados, ils font des sottises, ils sont dans les addictions, ils deviendront violents comme leur papa. Donc il faut absolument que ces choses-là soient dites, puissent être travaillées, puissent être réfléchies avec des services éducatifs et des services psychologiques, bien sûr.
Je vous remercie. On a hors antenne évoqué un centre qui existe, je crois, depuis un an, mais peut-être j'ai mal compris, Bivette Samuel. Et je voudrais que vous nous expliquiez quel est le rôle de ce service.
Voilà, donc l'OSE a toujours, depuis tout temps, reçu des familles en direct qui demandaient des conseils. Hein. Donc ça a été toujours une des missions de l'OSE. Donc voilà. Depuis un an, ce que je vous expliquais, c'est que l'association, sur ses fonds propres, a développé un poste. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup pour les moyens de l'association. Et ce poste est situé rue du Télégraphe, au centre Vivette Samuel, qui est un de mes services, qui reçoit des enfants qui nous sont envoyés par les juges pour enfants ou par l'aide sociale à l'enfance. Mais nous avons un numéro, le numéro de téléphone que je peux vous donner, qui est le 01 58 53 54 70. Et à ce numéro, on peut, une éducatrice ou une assistante sociale pourra répondre par téléphone, donner des conseils. On appelle ça le conseil aux familles. Et puis recevoir ces personnes, recevoir ces enfants et les conseiller pour qu'ils aillent vers une demande d'aide qui est une aide du département tout à fait institutionnelle. Et à ce moment-là, cette famille pourra demander, ou cette maman pourra demander à l'aide sociale à l'enfance que ce soit l'OSE qui la suive.
D'accord.
Dans le cadre d'une aide éducative à domicile, ça s'appelle une AED. S'il y a réellement un besoin et un danger, bien sûr.
Donc ça, c'est peut-être le tremplin pour après, voilà, avoir accès à l'aide éducative.
La famille peut tout à fait faire la demande, elle le fait couramment. Hein, et puis, des fois, on n'attend pas qu'elle fasse la demande. Parce que quand on a repéré des enfants en très grande difficulté, que l'école le sait, etc., il y aura ce que je vous expliquais, une information préoccupante. Mais si c'est la famille elle-même ou même un enfant, c'est plus rare, mais un grand enfant qui demande de l'aide, on pourra l'accompagner, quoi, lui. Autrement, l'accès à l'aide sociale à l'enfance est ouvert à toutes les familles sans passer par nous. Mais disons que ça, souvent les gens ont peur. Ils ont peur qu'on place leur enfant, qu'on retire de la famille, ce qui n'est pas le cas. Tous les ans, dans mon service, on suit 700 enfants et il y aura peut-être 10 enfants qui temporairement iront dans une maison d'enfants. C'est pas du tout ce qu'on travaille avec l'enfant dans sa famille pour résoudre les difficultés avec eux.
J'ai juste posé une dernière question, puisque vous en avez parlé au cours de votre réponse. Est-ce qu'il arrive que des enfants, ou plutôt des adolescents, vous contactent directement? Ou c'est très très
peu,
rare?
Peu, peu. Ce sont plutôt des grands. Parce qu'évidemment, la protection de l'enfance, c'est jusqu'à 18 ans. C'est quelques fois, mais c'est pas facile, de 18 à 21 ans. Et après, c'est plus rien du tout. D'accord. Et donc on peut avoir des enfants ou que l'on a su auparavant qui se retrouvent dans une grande difficulté et qui nous appellent. Et malheureusement, nous n'avons pas de solution. Donc nous les adressons au CASIP vis-à-vis du service social.
J'arrive un peu au terme de l'entretien. Est-ce que vous auriez éventuellement une conclusion, quelque chose que nous n'aurions pas abordé, qui vous semble important ?
Non, ma conclusion, c'est surtout de ne pas désespérer devant ces situations compliquées, que les enfants qui sont victimes de difficultés familiales, pour la plupart, s'en sortent très bien, à condition qu'ils trouvent des relais, qu'ils puissent se construire, qu'il y a un réseau autour d'eux. Il y en a de même pour les femmes violentées. Il faut absolument qu'autour d'elles, il y ait un réseau d'aide. Et je crois que Noam en fait partie, et que l'oser aussi dans ses missions, et qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide.
Je vous remercie. Je vais juste rappeler le numéro de téléphone du centre Bivette Samuel, le 01 58 53 54 70. Vous rappelez que vous étiez à l'écoute de l'émission mensuelle de l'association Noah Osez le Dire, ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes qui subissent des violences conjugales, que vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 10h à 16h sans interruption, et que vous pouvez également consulter notre site internet noahosezledire.fr. J'en profite pour dire que si des personnes bénévoles souhaitent nous rejoindre, elles sont les bienvenues. Je vous dis au revoir et je vous dis au mois prochain.